qui flippent. Oh, squatchy squat show, jamais cap. Oh, l'industrie suce, mais n'a plus de rôle.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's what made you... You did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Bonjour et bienvenue sur Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture tous les mercredis de 19h à 20h. Ce soir, c'est tout ce qu'on aime, séries, livres, jeux vidéo, ciné, en notre douce compagnie, et surtout de la musique pour bien démarrer notre émission. Je vous propose la rafraîchissante chanson Watermelon Sugar d'Harry Styles. Installez-vous confortablement et bienvenue sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
décidé de mon côté de vous parler ce soir, tout d'abord, d'un roman jeunesse qui fait la part belle à la montagne. En quête d'évasion cette fin d'année sous couvre-feu, ce fut un réel plaisir de m'évader dans cette montagne enneigée, dépeinte dans ce roman intitulé « Et derrière les nuages ». Édité dans la collection Ancrage chez La Joie de Lire, il a été écrit par Pascal Perrier, dont je vous parlerai juste après. Alors, de quoi parle ce roman ? Nous sommes à Chamonix de nos jours. Pour fêter la réussite de leur bac, le narrateur et Antoine, son meilleur ami, ont décidé de faire l'ascension de l'aiguille d'Argentière. La montagne, c'est toute leur vie. Elle est source de plaisir et de joie, mais aussi de drames familiaux. Ensemble, ils souhaitent devenir guides et doivent pour cela effectuer une quarantaine de courses en 2 ans avant de se présenter à l'examen d'aspirant guide. Au sommet de l'aiguille d'Argentière, alors qu'ils se sont désencordés, Antoine glisse dans le vide et se tue. Le narrateur sombre alors dans la dépression, persuadé d'être responsable de la mort de son ami. Noyé dans un chagrin qu'il n'arrive pas à évacuer, il ne supporte même plus la vue de ses chères montagnes. Il décide alors de quitter la vallée pour Lyon, essayant de passer à autre chose. Sur place, il y rencontre Leïla, une jeune fille extravertie qui, sous sa bonne humeur permanente, cache aussi des secrets et des blessures. Sa famille a déjà tout décidé de son avenir, mariage, métier. Mais Leïla est une rebelle. Amoureuse des mots et de la littérature, elle veut faire des études de lettres dans une grande école lyonnaise. Elle a coupé les ponts avec sa famille et doit justement passer un entretien important dans cette école. Ensemble, ils vont s'épauler et tenter de se reconstruire. Pour gagner un peu d'argent et permettre à Leïla de vivre son rêve, il décide même de travailler quelques semaines dans un magasin de chaussures. Mais un beau matin, l'appel des sommets se fait trop pressant. Il est temps de rentrer à Chamonix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Les personnages sont vraiment très attachants. L'ensemble est assez crédible, exception faite de quelques petites choses un peu faciles, mais qui n'empêchent pas de savourer le livre. La haute montagne est quant à elle dépeinte avec beaucoup de précision et une sensation réelle d'immersion. L'ivresse des hauteurs est habilement décrite et ça donne vraiment une furieuse envie d'y retourner. Le public cible est celui des grands adolescents, pour qui cette histoire a tout pour plaire. Et en tant qu'adulte et lectrice plus confirmée, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette lecture. Un bon petit roman que je conseille donc aux ados amoureux de la montagne, mais pas que. Pour finir sur ce livre, je vous propose la lecture de la très belle biographie de Pascal Perrier, publiée sur le site Ricochet Jeune. Il y est écrit « Quand elle était enfant, Pascal Perrier rêvait qu'elle serait poète sous un chêne. Depuis, il n'y a toujours pas de chêne dans son jardin, mais son amour pour les mots est resté. De là ses études pour devenir docteur en lettres, où il s'agit peut-être de soigner les mots, d'être à leur écoute. Son quotidien est surchargé, d'abord par ses 4 enfants. L'aîné a enfin l'âge de déchiffrer les livres de sa maman, tandis que le dernier se délecte à gribouiller les feuillets des textes restés imprudemment accessibles sur son bureau. Quotidien surchargé aussi par son travail de professeur documentaliste, qu'elle aime parce qu'il lui permet d'être entouré par les livres, d'en lire et d'en conseiller. Quotidien surchargé enfin par les rencontres dans les classes où elle partage sa passion de l'écriture et des livres. Malgré tout, elle trouve, trop peu à son goût, le temps de s'asseoir devant son ordinateur et de s'évader vers de nouveaux mondes à créer. Elle aime écrire des histoires. Je vous rappelle donc le titre de ce livre « Et derrière les nuages » de Pascal Perrier, édité chez La Joie de Lire dans la collection Ancrage.
S'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
Pour finir ce soir, j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Dans les yeux de l'IA, publiée chez Dupuis. Au scénario, on retrouve Carbone et au dessin Justine K.A. Pour l'instant, deux tomes sont parus. Le tome 1, En quête de vérité, et le second tome, Sur les traces du coupable. À la veille de ses 17 ans, l'IA se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite, la laissant pour morte. Elle survivra, mais devra rester dans un fauteuil roulant toute sa vie. Nous prenons l'histoire 4 années plus tard. Elle termine son DUT carrière juridique et décroche un stage dans le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villejean. Son stage n'a pas été choisi par hasard. Bien au contraire, c'est ce même cabinet qui a réglé son cas des années auparavant. Ses parents ne lui ont rien dit, mais elle a découvert qu'ils avaient été achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversé et à lui faire payer, elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors, et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquences. Le sujet du récit est plutôt original puisque nous suivons cette jeune femme qui se transforme en jeune détective amatrice et qui enquête sur une affaire qui la concerne directement, agissant un petit peu comme un agent infiltré. C'est d'autant plus original que cette dernière est physiquement handicapée et doit surmonter les difficultés que cela implique pour mener son enquête. C'est d'ailleurs agréable de l'avoir pouvoir compter sur son entourage proche. C'est une belle surprise de lecture, le dessin fait très public pré-ado, alors que le récit est plus centré vers une enquête policière menée par une jeune paraplégique dynamique et sympathique, ce qui devrait plaire à un lectorat nettement plus âgé. C'est frais, drôle, le tout sur un thème assez dramatique, celui du handicap. J'ai hâte pour ma part de lire le dernier volet. Ce n'est certes pas une BD indispensable, mais elle est très très agréable à lire, donc à découvrir.
Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité. Dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. Dis la vérité.
T'avais même pas commencé ton album, tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes, on dirait bien que personne n'était prêt. Suffit pas de vouloir la légende pour la pénétrer. T'as rien d'original, rien d'inattendu. Dès que tu parles, j'ai un déjà vu. Tu pourras jamais forcer les gens à vouloir écouter ton bruit. Je suis gentil derrière mon écran, mais dans le vrai monde je te détruis. Si je te dis ça c'est pour ton bien, tu te la racontes comme un sac à main Gucci. Mais t'entends ni les bonnes notes ni les conseils, seul dans ton monde comme un Tamagotchi. Normalement ça fait, n'écoute pas les autres, vis tes rêves. Mais toi t'es l'exception qui confirme la règle. Ton album c'est une séance d'IRM. Pour le vendre tu t'inventes une vie de voyou. Non mais tu t'es vu comme si ça t'arrivait d'être G. Rentre chez ta mère, bye bye, arrivederci.
Adieu. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. Dis la vérité.
Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et je sais qu'elle va pas être drôle. Fais semblant d'être proche de tes fans, t'es proche de tes victimes comme un escroc. Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. Trop de hype pour ton vrai niveau. Tes potes suceurs sont des mythos. T'es en philo, tu fais du migos. L'album c'est une séance de chimio. Marre de t'écouter raconter n'importe quoi pour que ça rime. J'en ai marre, tout le monde utilise les mêmes expressions. C'est la schtroumpf party. J'en ai marre, fallait pas vendre ton âme au diable. Arrête de plaindre ton label. J'en ai marre de tes chansons d'amour où tu compares ta meuf à ta mère. Marre de tes clips en DV nul à chier. De tes tentatives de tube ratées. Aucun charisme, t'aurais dû te masquer. T'es même pas foutu de plagier.
Putain. Un artiste frustré devenir méchant alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne
non.
Que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Dis la vérité.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Surtout si c'est ton pote.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Les blessés c'est important.
La vérité.
Dis la vérité.
Ce soir pour cette chronique lecture, je vous rappelle les deux titres présentés. Nous avons Et derrière les nuages de Pascal Perrier, édité chez La Joie de Lire dans la collection Ancrage, et les deux premiers tomes de la bande dessinée Dans les yeux de l'IA, le tome 1 intitulé En quête de vérité et le deuxième tome Sur les traces du coupable. Cette BD est éditée chez Dupuis et nous retrouvons au scénario Carbone et au dessin K.A.
Je sais même pas ce qu'il faut faire.
Alors, je vais vous parler maintenant d'une série, The Honor, que vous aurez la possibilité de découvrir au mois de janvier sur Canal+. Alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder le premier épisode en VOST et j'ai vraiment accroché dès le départ. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les séries que j'ai pu découvrir actuellement. La série commence par un délit de fuite suite à un accident mortel causé par un jeune. Affolé, il rentre chez lui et contacte son père, juge respecté de la Nouvelle-Orléans. Le père lui conseille alors d'aller se rendre aux autorités, mais juste avant de le faire, il se rend compte que le jeune qui a été tué n'est autre que le fils d'un des parrains de la pègre locale. Cette série porte un regard acéré sur la relation complexe et ambivalente qui unit un fils et son père, en l'occurrence Bryan Cranston, ici le fameux Heisenberg de la série Breaking Bad que vous aurez le plaisir de retrouver. Je vous rappelle le nom de la série, The Honor, que vous aurez la possibilité de retrouver sur Canal+, bientôt.
Pour la pause musicale, je vous propose quelque chose d'un peu nouveau avec KDA, un groupe de virtual K-pop issu de l'univers du jeu vidéo League of Legends. Ce groupe, il est composé de 4 des héroïnes de ce jeu. Le titre Mort, que vous allez entendre juste après, est sorti à l'occasion des World Championships de 2018, et si vous voulez en apprendre plus sur l'univers de ce jeu vidéo, je vous conseille le documentaire League of Legends Les Origines, qui nous raconte les débuts et l'ascension mondiale de ce jeu. Enjoy! KDA, should we show them how we do it every day? Kali that girl, Kali go girl, Kali gon' stop, Kali gon' skirt, Kali got a job, Kali go to work, they go on Jenna, don't get burned. Them chahalamer than a rough bed, she got shit and I like a rough bed. Nuga got me on my half bed, come on your gym, I just a rough day. Can't get any more cause I'm better than, Pidona, she under the bully me. But all of my numbers are talking back, Purdue, my mom messes Monopoly. No jongi, don't need no remoney, Pidio up the none, the demon, the don't go get it, go get it, go get it. The mission, the normal, the motto, good, and all the good, cause I got it different.
Yo les amis, aujourd'hui je vais vous parler du film Yes Man de Peyton Reed 2008. Un film sur le bonheur, un film qui ouvre plusieurs pistes de recherche du bonheur, un film léger qui fait du bien dans ces temps lourds et sombres.
Je vais faire une petite fête chez moi.
Nous sommes des Spartiates!
Ouais, non.
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 Tu trouves toujours des excuses. Depuis quand tu ne t'es pas amusé? Carl, ça fait un bail. J'ai grimpé le Kilimandjaro. Je m'éclate. Je suis un yes man.
Wow.
Oui. Oui.
Non.
Vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz...
Oui.
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 Oui, je veux prendre des cours de guitare.
Serais-tu l'homme qu'il me faut?
Je crois que oui.
Il faut que tu dises oui à tout.
Tu me prêtes $2-3?
On se bat, oui ou non?
Tu veux organiser la fête de Lucie?
Oui.
C'est très gentil, Carl.
Ah, merci. Enfin,
j'ai bu un Red Bull cette nuit. J'adore le Red Bull.
Oui, elle a l'air un peu surexcitée.
Ah, Red Bull!
Dites oui. Ah, à la vie.
Le monde est un terrain de jeu. Mais avec le temps, on finit par l'oublier.
Jim Carrey.
Encore un snip de sauce piquante.
Yes, ma'am.
Est-ce que j'aimerais augmenter la taille de mon...
Oui, comme si j'en avais besoin.
Synopsis. Renfermé sur lui-même et fuyant, Carl Allen, employé de banque, refuse tout ce qu'on lui propose et se protège continuellement derrière un mot simple, non. Un jour, un ami perdu de vue lui donne une brochure vantant les mérites du oui. Une philosophie de vie selon laquelle tout est possible et qui serait la clé du bonheur. Il décide alors de changer sa vie en répondant oui à tout ce qu'on pourra lui proposer. En effet, dès les premières scènes du film, Carl Allen semble en pleine dépression. Même s'il continue de se lever, de s'apprêter, d'aller travailler, nous le sentons fragile, au bord du burn-out. Largué et fuyant avec ses amis, il répond systématiquement en décalé. Il ne comprend pas les sollicitations de ses amis. Mal remis de sa rupture d'il y a 3 ans avec son ex-femme Stéphanie, il est employé de banque et mime quelques grimaces et blagues avec son responsable Norman, qui n'a pas l'air mieux. Mais le cœur n'y est pas. Il végète et semble s'ennuyer ferme. Bref, il semble au bout de sa vie. Les premiers mots prononcés par Carl sont « non » et « non, c'est non ». Alors qu'un numéro masqué tente de le joindre sur son téléphone. En fait, il refuse les appels de son meilleur ami Peter qui cherche à le joindre. Il fuit ses invitations. Ce n'est pas un non de révolte ou de libération, mais bien un non peureux, de repli sur soi, un non mesquin et déprimé. Son énergie vitale semble réduite au minimum. Son désir en train de s'éteindre, ses émotions sont fades et il ressemble à un clown triste qui a de plus en plus de mal à faire semblant avec son entourage. C'est un no man cynique et amer. Le film est clairement une parodie critique des théories du développement personnel qui font actuellement florès, des gourous opportunistes qui font payer cher leurs recettes du bonheur, leurs mantras et formules magiques qu'il faut répéter inlassablement pour se convaincre de leur véracité. Ces recettes toutes faites, sans réflexion critique aucune, prêtes à l'emploi, recettes faciles d'un bonheur pour les nuls. Quoi qu'il en soit, Carl n'a rien à perdre à essayer. Il va donc dire oui à tout. Et toutes celles et ceux qui lui demanderont quelque chose se verront répondre oui. Ce qui va créer des situations du plus grand comique, où l'on retrouve le génie burlesque de Jim Carrey, fidèle à son fameux The Mask, 1994, ou The Truman Show, en 1998. Mais sans oublier son incroyable sens du pathétique, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Spike Lee, en 2004. Cette posture, face aux événements du quotidien, va l'entraîner dans des situations extraordinaires où il va révéler la poésie derrière la grisaille, la beauté des gens derrière leur masque social. Il va notamment croiser le chemin de la déjantée Allison, qui a cette très belle phrase « Le monde est un terrain de jeu, tous les enfants savent ça, mais on finit par l'oublier en grandissant. » La clé du bonheur serait-elle de retrouver l'enfant en nous? Il se pourrait que l'enfance soit ce temps de l'innocence et de l'insouciance, synonyme de satisfaction continue et globale, autrement dit de bonheur, où l'individu a ses petits soucis, mais qui ne sont pas les responsabilités et problèmes des adultes. C'est le temps de l'égarement volontaire, de la flânerie, de la rêverie, des explorations et du jeu. L'égarement, l'exploration rêveuse du petit prince de Saint-Exupéry, qui va de planète en planète visiter ses voisins sans a priori ni préjugé aucun, et s'étonne de leurs complications et soucis, avant d'arriver sur Terre en plein désert et de demander à l'aviateur de lui dessiner un mouton pour le ramener chez lui. Le petit prince, qui pose un regard neuf sur le monde, donne sans attendre en retour, mais exige des réponses à ses questions. Il nous rappelle que l'on peut s'émerveiller d'une rose et combien l'amitié avec l'aviateur ou le renard est essentielle à notre équilibre. Dans la rêverie, l'imaginaire transforme l'ennui en jeu. Or, ce jeu est une construction de nous-mêmes. C'est ainsi que le philosophe Walter Benjamin, dans « Enfance », peut écrire, deux points ouvrez les guillemets, « Là où les enfants jouent, un mystère est enfoui. » Fin de citation. Ce mystère, c'est nous. Avant de basculer dans le monde adulte de la loi, de la raison, du langage, Benjamin voit donc dans le jeu une des premières expériences métaphysiques de l'enfant, l'expérience de la différence entre matière et mouvement, entre silence et parole, vie et mort. C'est peut-être de ce temps-là que date notre désir nostalgique de bonheur, notre rêve de retrouver cet état béni et innocent. En outre, un aspect du film et de sa réflexion sur le bonheur est frappant. Une des clés du bonheur que va trouver Carl, Allen, se trouve dans l'attention qu'il porte aux autres. L'éthique de la sollicitude, plus souvent appelée éthique du care, de l'anglais ethics of care, est une réflexion morale de la fin du XXe siècle, issue dans les pays anglophones d'approches et de recherches féministes. Dans ce domaine, sollicitude y est employée selon une acception particulière qui regroupe un riche ensemble de sens alliant attention, soin, responsabilité, prévenance, entraide et plus. Say yes to life today. Enfin, en quoi être heureux, est-ce dire oui à la vie? Le philosophe Friedrich Nietzsche, au livre 4 du Gai Savoir, au paragraphe 276, qui clôt ce même livre, écrit le texte suivant. Je profite de sa lecture pour vous souhaiter avec lui la bonne année. Pour la nouvelle année, je vis encore, je pense encore, je dois vivre encore car je dois encore penser. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu et sa pensée la plus chère. Eh bien, je veux dire moi aussi ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année. Quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir? Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati. Que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait. Je ne veux pas accuser. Je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Fin du texte. Ce texte de Nietzsche nous invite à penser la vie à partir d'une attitude philosophique. Dire oui, là encore, de façon active et non passive. Il s'agit de reconnaître la nécessité des choses qui arrivent, le fait qu'elles ne peuvent arriver autrement, et d'en accepter la logique. Mais il faut aussi, et surtout, s'efforcer d'y voir la beauté. C'est en ce sens que la puissance de notre esprit intervient, parce que c'est inscrire son action dans une intensification de l'instant, rendre l'événement beau par son intensité, sa qualité que l'on valorise. C'est cet embellissement des choses et des personnes que parvient à produire Carl par son oui dans le film. Ce oui à la vie est plutôt une recherche de la joie. comme satisfaction intense, tant intellectuelle que sensible, qu'une recherche du bonheur. C'est notre joie, notre regard intense et joyeux qui embellit les choses et les événements que nous vivons. Les choses ne sont pas belles en elles-mêmes, mais c'est notre façon de les valoriser qui les rend belles. Pour soigner la tristesse et éclairer la nuit, je vous conseille vivement ce film « Yes Man ». Merci de votre écoute.
Petite sélection lecture que j'aimerais partager avec vous. Au menu, deux bandes dessinées, un magazine et un petit guide mortel. Je commence par vous parler d'un magazine qui m'a tapé dans l'œil en décembre. Il s'agit du hors-série numéro 8 des grandes énigmes de l'histoire et qui s'intitule « Tout savoir sur le Japon ». Dans ce magazine, vous allez tout connaître du Japon féodal au Japon impérial, en passant par les samouraïs, la mythologie, les estampes, les mangas ou encore les geishas. Tout est très bien documenté et expliqué avec des photos garanties 100% dépaysement. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Japon, je vous conseille vivement ce magazine qui répondra à coup sûr à votre curiosité. Ce hors-série est disponible au prix de 12,50€ chez votre marchand de journaux. Pour la première bande dessinée, j'aimerais vous parler de Lou Sonata, la saison 2 de la BD Lou, écrit par Julien Niel aux éditions Glénat. Rappelez-vous, au départ, Lou, c'est l'histoire d'une petite collégienne blonde et créative qui vit avec sa maman un peu gauche et son chat, et dont nous suivons les aventures pendant 8 tomes. Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d'étudiante qui s'installe seule dans la ville de Tigre. Lou continue d'avancer dans sa vie et de nous questionner via ce mélange d'humour et de sensibilité dont la formule inédite en bande dessinée fut de faire grandir son héroïne en même temps que ses lecteurs. Si les lecteurs ont grandi depuis 15 ans, Julien Neal également. Il s'y est affirmé comme un véritable auteur capable de surprendre ses lecteurs tout en se renouvelant. Sonata, c'est une référence directe à la musique. Une musique qui a toujours nourri l'univers intime de Julien Neal et dont la bande originale est disponible lorsque vous achetez le livre. De quoi prolonger le plaisir avec cet album spécialement composé pour cette bande dessinée. Lou Sonata de Julien Neal est disponible aux éditions Glénat au prix de 17,50€. Deuxième bande dessinée, nous changeons totalement d'ambiance et d'atmosphère pour Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Je me nomme Abigail Hobbs. J'ai 14 ans. J'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis, il y eut ce jour fatidique. J'étais dans ma 13e année. Je m'en souviens précisément, le jour où tout a commencé. Si j'ai choisi cette BD, c'est avant tout pour le thème qui m'intriguait, les sorcières de Salem. Une histoire vaguement connue d'à peu près tout le monde, et pourtant si mystérieuse. Une légende mêlant croyances populaires, religion et déboires politiques. Cette œuvre est à la fois une fiction passionnante et bien racontée, mais aussi un petit morceau d'histoire qui en dit tellement sur notre société. Le tout est porté par un dessin vraiment adapté, tantôt lumineux, tantôt extrêmement sombre. Attention, cela dit, si les passages choquants ne sont pas nombreux, ils sont suffisamment impressionnants pour que je vous mette en garde. Cet album n'est pas à mettre entre toutes les mains. Les filles de Salem est disponible aux éditions d'Argo au prix de 22€. Pour finir, et en restant dans le même thème sombre que les filles de Salem, j'aimerais vous parler de Mortel, petit guide de survie à la mort, écrit par Taous Merakchi, une autrice dont j'admire profondément le travail depuis plusieurs années. À la base, Mortel est un podcast autour de la mort proposé par l'autrice qui a décidé d'en faire un livre pour revisiter certains thèmes et moments forts. Ici, elle nous propose de nous questionner à propos de la mort, par exemple, comment faire son deuil ? Que dire et ne pas dire à une personne endeuillée, la place de la culpabilité dans la mort, les rites funéraires à travers le monde et l'histoire, parce que oui, la mort est une fête, comment vaincre la mort et comment bien se préparer et préparer ses proches à la mort. Comme elle le dit si bien en quatrième de couverture, cette fatalité vous angoisse peut-être, mais pour moi il est incroyablement rassurant de savoir qu'un jour tout prendra fin, cela donne du sens à ma vie et du poids à mes actions. Plutôt que de faire l'autruche, j'ai choisi de regarder la mort en face et de briser le tabou qui l'entoure. L'autrice veut ici nous aider à apprivoiser la mort et à ne plus en avoir peur. Et comme elle le dit si bien, remontons le Styx ensemble. Mortel, petit guide de survie à la mort, est disponible aux éditions Marabout au prix de 18,90€. Je vous propose une petite pause musicale avec Isia et Orelsan et le titre « Les ennuis » sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Nos regards s'en mêlent, un peu gênés, maladroits. Deux verres sur le sol, les draps sentent le tabac froid. En mettant sa veste, il m'embrasse une dernière fois. Ma bouche lui dit salut, mon cœur dit ne t'en va pas. Il ne m'entendra pas lui dire, mais j'aimerais qu'il reste. Est-ce qu'il doit vraiment partir ou le jour me qui s'enfuit.
Et la vie suit son cours, chaque lendemain a son histoire. Le chemin le plus court, rentrer avant qu'il soit trop tard. Et la vie suit son cours, chaque lendemain a son histoire. Le chemin le plus court, rentrer avant qu'il soit trop tard.
Assise dans mon canapé, je ronge mes doigts. Et ce qui cerne mes yeux, c'est l'eau noire que je bois. Dans ma tête se joue la nuit comme au cinéma. J'essaye de comprendre le comment du pourquoi.
fait avant qu'il soit trop tard.
À toutes et à tous, ce soir je vous propose une chronique bande dessinée. Pour commencer cette chronique, je vais vous parler de l'Arabe du futur et en particulier du dernier tome L'Arabe du futur 5. L'Arabe du futur est une bande dessinée de Riyad Satouf dans laquelle il raconte son enfance et son adolescence. Dans le premier tome qui couvre les années 1978 à 1984, le petit Riyad était ballotté de sa naissance à ses 6 ans entre la Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-parents et la Syrie de Hafez el-Assad. Dans le deuxième tome, en 84-85, il racontait sa première année d'école en Syrie. Dans le troisième tome, 85-87, c'était celui de sa circoncision. Et le quatrième tome, l'avant-dernier, qui couvre les années 87-92, révèle le coup d'état de son père. Alors, L'Arabe du futur 5 est sorti juste avant Noël. Ce livre raconte l'histoire vraie de l'adolescent qui est devenu Riyad Satouf, plus du tout blond, hein, comme au moment de son enfance, mais surtout l'histoire de sa famille franco-syrienne et d'un fantôme. Riyad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu et il a un physique difficile. À la fin du tome précédent, son père s'est enfui. Alors je ne vous raconte pas tout dans le détail, mais il s'est enfui en Syrie. Et tandis que sa mère utilise tous les recours légaux, Riyad poursuit son exploration de cet âge pénible et l'adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de la classe, ils lui font lire Lovecraft, et il rencontre Anaïk, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire un peu respecter, mais il a du mal à trouver sa place, partagé entre l'envie d'être comme les autres et sa mauvaise conscience d'être venu de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et de ses cousins. Dans ce livre, Riyad Satouf raconte son secret. Il continue aussi de nous épater avec l'Arabe du futur 5, parce que ce tome 5, il est savoureux, et il franchit un cap aussi, dans l'évolution du personnage, la gravité, etc., dans la jeunesse de Riyad Satouf. Moi, je vous conseille vraiment la lecture de tous les tomes de l'Arabe du futur et de toutes les bandes dessinées de Riyad Satouf, hein, et en particulier aussi Pascal Brutal, qui sont vraiment très, très, très sympas. Retour au collège aussi, enfin, il y en a énormément. Donc voilà, l'Arabe du futur 5, c'est sorti récemment et c'est plus que conseillé par Bande Geek Mafia. Deuxième bande dessinée ce soir, Moderne Olympia de Catherine Meurice. Un récit écrit et dessiné donc par Catherine Meurice, une coédition Futuropolis Musée d'Orsay. Alors de casting en figuration, Olympia court les plateaux et rêve d'un premier rôle romantique digne de Roméo et Juliette. Elle se verrait bien en haut de l'affiche, comme Vénus, la star des studios d'Orsay. Mais Olympia n'est pas de bonne famille, elle appartient au clan des refusés, pour qui le chemin du succès est semé d'embûches. Et son amour pour un officiel du clan rival ne simplifie pas les choses. Dans Moderne Olympia, les œuvres d'Orsay s'affrontent à un rythme effréné et esquissent des pas de danse inspirés des meilleures comédies musicales américaines. West Side Story au musée d'Orsay, c'est possible sous la plume de Catherine Meurice. On est au musée d'Orsay, où de célèbres toiles ont pris vie, et deux clans s'affrontent, les officiels, les refusés, et au cœur du clan Philly, on trouve Olympia, une jeune actrice moderne. Elle ne veut pas se contenter de rôle de figuration dans ce musée qui est devenu un immense studio de cinéma. Et surtout, 50 œuvres du musée d'Orsay sont citées dans cette bande dessinée. Si vous aimez les œuvres du musée d'Orsay, les impressionnistes, Manet, le tableau Olympia ou Catherine Meurice, n'hésitez pas à vous procurer cette bande dessinée. Troisième et dernière bande dessinée ce soir, je voudrais vous parler de Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Malgré tout, c'est l'histoire d'un amour à rebours, une passion platonique mais éternelle entre deux êtres. D'un côté, il y a Anna, sexagénaire charismatique, ancienne mère, tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand cœur qui impose le respect. De l'autre, il y a Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui aura mis 40 ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrenant les excuses qui ont empêché qu'elles ne prennent forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres, jusqu'à la source. Avec malgré tout, Jordi Lafèbre, qui a créé Les Beaux Étés, La Mondaine, Lydie, nous offre, avec toute la poésie et la tendresse qui le caractérise, son premier album en tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe qu'il recompose savamment au travers de scènes distinctes et pourtant indissociables les unes des autres. Jordi Lafèbre signe l'un des meilleurs albums de l'année, une lecture douce qui permet de s'évader. Amour, mélancolie, humour, passion, tous les ingrédients nécessaires sont réunis et savamment dosés pour faire vibrer le cœur des lecteurs. C'est un coup de cœur, une merveilleuse histoire, une plongée dans le monde des subtilités. Je récapitule les trois bandes dessinées présentées ce soir. L'Arabe du futur 5 de Riyad Satouf aux éditions Alary, Moderne Olympia de Catherine Meurice aux éditions Futuropolis et Malgré tout de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. À très bientôt dans Bande Geek Mafia pour une nouvelle chronique BD ou cinéma.
C'était Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, et nous étions heureux de partager cette heure avec vous. Je vous laisse en compagnie de la chanteuse Pomme avec sa reprise de Désenchantée de Mylène Farmer, que j'aime particulièrement écouter car elle me rappelle le dernier concert que je suis allée voir avant les événements que nous connaissons. Bon courage à tous et à bientôt pour plus de ciné, séries, livres et musique en notre compagnie sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Plus rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. Sans se vouer, qui peut prétendre nous bercer dans son ventre? Si la mort est un mystère, la vie n'a rien de temps. Si le ciel a un enfer, le ciel peut bien m'attendre. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchanté.
Radio G 101.5 FM.